autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur nous-mêmes aujourd'hui, en nous demandant comment éveiller, développer, cultiver le meilleur de notre humanité. Question essentielle à laquelle notre invité, le biologiste et philosophe Georges Chapoutier, qui a passé sa vie de chercheur à étudier le cerveau, le nôtre comme celui des autres animaux, apporte des pistes de réponses inattendues. Et si pour devenir plus humain, pour devenir meilleur, il nous fallait retrouver enfouis au plus profond nos émotions animales, sauver l'homme par l'animal. C'est le titre de son dernier ouvrage, nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs libres et curieux, histoire de nous inspirer des plus récentes découvertes sur les aptitudes cognitives, émotionnelles et affectives des autres animaux, de la tendresse des cachalots à l'empathie des grands singes, en passant par l'entraide des éléphants. Autour de la question comment rendre l'homme meilleur, bienvenue pour une plongée dans le meilleur de notre animalité.
La vie en société ressemble souvent à une jungle et que peut-on apprendre des animaux pour vivre, si je puis dire, plus humainement?
C'est un autre philosophe, Alexandre Jolien, qui lui aussi s'interroge et vous interroge, Georges Chapoutier. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous, en vrai, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. On en est très heureux pour partager vos pistes de réflexion et d'interrogation, celles qui animent et ont animé toute votre vie de chercheur, de neurobiologiste et de philosophe. Une double casquette, Georges Chapoutier, qui explique peut-être pourquoi et comment vous êtes un des pionniers de cette réflexion, à la fois éthique et scientifique sur les animaux non humains, sur leurs capacités cognitives, émotives, affectives, révélées par les plus récentes découvertes en éthologie comportementale, en neurobiologie. Et vous vous en inspirez pour réveiller notre humanité. Rappelons que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de nombreux ouvrages. On peut citer Georges Chapoutier, Biologie de la mémoire, L'homme, ce singe en mosaïque, ou encore Le chercheur et la souris, car en tant que
avec Françoise Tristany, ce dernier.
Avec Françoise Tristany, le chercheur et la souris, parce que vous avez étudié l'anxiété et la mémoire chez les souris, ce qui vous a amené d'ailleurs à questionner l'expérimentation animale, on y viendra peut-être, mais ce qui vous occupe aujourd'hui dans ce nouvel ouvrage intitulé donc « Sauver l'homme par l'animal » que vous venez de publier chez Odile Jacob, c'est un questionnement plus philosophique sur notre nature humaine, comment rendre l'homme meilleur, comment développer des sociétés plus juste, moins violente, plus altruiste. Immense question morale, au sens propre du terme, mais à chercher dans notre animalité, c'est ça. Il faudrait retrouver nos émotions animales pour être plus humain, Georges Chapoutier.
En fait, c'est la thèse que je défends. Si vous voulez, quand on regarde le comportement de l'espèce humaine, qui est une espèce remarquable sur le plan intellectuel, aucune autre espèce ne fait ce que nous faisons, des ordinateurs, des fusées, aller sur Mars, etc., etc. Les succès scientifiques et technologiques de l'espèce humaine sont évidents, si vous voulez. On ne peut pas les nier. En revanche, si on regarde le comportement moral de notre espèce, c'est pas très brillant. On se veut des êtres moraux. Il y a des traités de morale, il y a des religions, etc., etc. Mais toute l'histoire de l'humanité est une succession d'atrocités, de guerres, de viols, etc., etc. C'est absolument abominable. Les gens que nous admirons encore de nos jours, les anciens rois, princes, empereurs et même papes, ont commis des atrocités qui, donné l'expression, rendraient en quelque sorte, permettrait de représenter Al Capone comme un saint. En d'autres termes, c'est pas brillant. Nous regardons aussi les faits divers, ce qui se passe autour de nous, il n'y a pas de quoi être fier. Donc la question qu'on peut se poser, comment rendre cet être intelligent, technologiquement intelligent, meilleur? Comment le rendre meilleur? Alors une des thèses que je défends, parce que je connais bien les animaux, et que dans l'animalité, on l'a dit tout à l'heure, il y a bien sûr la loi pour la jungle, mais il n'y a pas que ça. Quand on monte dans les espèces, dans les groupes animaux, on s'aperçoit qu'en face de cette loi de la jungle, en face de cette loi de lutte, si j'ose dire, il y a en face des mécanismes d'entraide qui existent chez tous les groupes qui vivent en société, mais même quelquefois en dehors de ces groupes. On a cité par exemple, je prends pas de façon anecdotique, oui. le cas de ces jeunes chimpanzés qui aidaient un petit oiseau à voler, ou le cas du lion qui avait adopté une gazelle, etc. Il y a des cas même interespèces.
D'altruisme, vraiment.
D'altruisme, ouais. De vrai altruisme. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a dans l'homme, comme dans toutes les autres espèces animales, des aspects cognitifs et des aspects émotifs. Et que peut-être l'espèce humaine, en développant trop ses aspects cognitifs, a sacrifié ses aspects émotifs et altruistes, et qu'il faudrait qu'elle les retrouve. C'est-à-dire qu'elle retrouve en elle, finalement, des processus biologiques, animaux bien sûr, mais ça veut dire biologiques, qu'elle a en elle, l'espèce humaine, mais qu'elle néglige, et qui lui permettrait d'avoir un comportement meilleur.
Qu'on a négligé, Georges Chapoutier, vous parlez de capacités émotionnelles, affectives, qu'on a négligé, qu'on a oublié, qu'on a gâché, qu'on a occulté, et qu'on a longtemps nié aux autres animaux.
Alors bien sûr, on les a niés aux autres animaux, alors ça c'est encore une autre histoire, l'homme a toujours déprécié l'animal en quelque sorte. Sans se rendre compte tellement combien il est proche de lui. Ce que je dis là paraîtra évident aux gens qui ont des chats ou des chiens, qui manifestent des émotions et des capacités émotionnelles et même d'altruisme comparables aux nôtres. Il y a d'autres exemples, les dauphins, on reviendra peut-être sur les dauphins, sur d'autres groupes, etc. etc. Mais l'espèce humaine a tendance à développer ce qui est fructueux, ce qui est utile pour elle sur un plan pratique, et de fait, à négliger ces aspects émotionnels. Si vous regardez même notre éducation aujourd'hui, elle est basée essentiellement sur les langues, c'est-à-dire des aspects qui permettent en quelque sorte de se défendre dans la société, et les mathématiques, des aspects très cognitifs. Les aspects de valeur émotionnelle sont très souvent négligés. Je vais prendre un exemple extrême, dont on parle depuis des années, la formation des médecins. On dit, les médecins, ils doivent être les vieux médecins d'antan, avoir des stars, mais on ne sélectionne pas les capacités émotionnelles du tout. On continue à sélectionner les médecins sur des concours de mathématiques.
Et on continue finalement à parler de notre humanité uniquement en termes cognitifs et, comme vous dites, assez peu en termes émotionnels, affectifs. Alors, c'est aussi toutes les récentes découvertes sur les capacités, l'intelligence animale, mais les autres formes d'intelligence des autres animaux.
Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, justement.
L'intelligence émotionnelle. Et en ça, vous rejoignez une communauté quand même de chercheurs. J'ai dit que vous étiez un des premiers, un des pionniers. Il y en a quand même de plus en plus aujourd'hui, des éthologistes, des neurobiologistes, des philosophes qui s'intéressent de plus en plus à la condition animale. Nous serons d'ailleurs en ligne tout à l'heure avec un autre formidable humaniste qui est lui vétérinaire de la faune sauvage, Noreen Chai, qui s'intéresse aux sagesses animales.
Et qui a des thèses très proches des miennes.
Absolument. Mais avant cela, je vous propose un nouvel éclairage autour de la question « Comment rendre l'homme meilleur ?» C'est celui d'un naturaliste, Pierre Rigaud, qui était récemment notre invité.
Il y a quelque chose que je trouve assez frappant chez beaucoup de nos contemporains, et je m'inclus complètement là-dedans, à savoir qu'on a souvent tendance à oublier ou à pas trop vouloir regarder le côté biologique de notre espèce. Alors je suis pas du tout en train de dire qu'il faut regarder que ça, et évidemment il faut prendre ça en compte au même titre que tout ce qu'on sait des sciences sociales, du côté culturel, anthropologique, civilisationnel, etc., etc., du contexte familial, pour expliquer le comportement de la vie des gens individuels ou en société. Mais souvent on veut pas trop regarder le côté biologique, et c'est aussi pour ça qu'on a eu peur de s'intéresser aux animaux, parce que évidemment ça ne faisait que refléter une partie de nous-mêmes dont on n'était pas très fiers. Et aujourd'hui quand même, au niveau de la science, ça change de plus en plus, on se rend compte que toutes les particularités humaines qui ont été décrites ces derniers siècles, ça tombe une par une. Enfin, le propre de l'espèce humaine, le rire, tout un tas de caractères qu'on attribuait uniquement aux êtres humains, on se rend compte que ça existe chez plein d'autres espèces, à commencer par l'empathie. Je pense qu'on a tous, en tant qu'humains, à gagner, à essayer d'observer les animaux pour eux-mêmes, bien sûr, mais à essayer de les comprendre pour comprendre nous-mêmes comment on fonctionne, pour comprendre la partie biologique de notre espèce. Et ça peut nous aider à devenir meilleurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Ça paraît un petit peu grandiloquent, mais je trouve qu'on, si on dénie, par exemple, le côté cruel de l'humain ou le côté violent de l'espèce humaine qui a permis qu'on réussisse en fait sur le plan de l'évolution de notre espèce, parce qu'on a été chasseurs pour survivre par exemple, si on dénie tout ça, on passe à côté d'une réalité qui nous empêche de mieux évoluer pour privilégier ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain. Et donc moi je suis content qu'on s'intéresse de plus en plus aux animaux et qu'on fasse de plus en plus de rapprochements biologiques en fait pour comprendre le monde dans lequel on vit, mais pour comprendre notre propre espèce en fait.
Les autres animaux comme miroir finalement aussi de l'animal humain qu'est l'homme, parce que l'homme est aussi un animal, un animal singulier, mais un animal.
Ce qui vient d'être dit, bien sûr, est tout à fait juste. L'homme doit savoir reconnaître ce qu'il a dans ses racines animales. Et donc ses racines, il y a des choses qui sont fâcheuses, comme la cruauté, effectivement, et puis il y a des choses qui sont très, très importantes, comme l'empathie. J'aimerais citer André Langanet ici, qui dit souvent « il faut être animal et fier de l'être ». Ça ne veut pas dire qu'il faut transformer les hommes en chimpanzés, bien entendu. Ça veut dire qu'il faut retrouver dans notre bagage biologique ce qu'il y a de mieux et qui sont souvent des racines animales.
Vous avez vous-même, Georges Chapoutier, beaucoup travaillé avec les souris et sur l'anxiété des souris, la souffrance des souris.
L'anxiété essentiellement.
L'anxiété oui. essentiellement. C'est-à-dire que les animaux souffrent comme nous, peut-être pas comme nous, mais souffrent aussi.
Alors, bien sûr, les animaux souffrent aussi. Ils ont les mêmes processus de douleur et de souffrance que nous. Alors, on distingue des processus de nociception, qui sont en général inconscients chez beaucoup d'animaux. Prenons par exemple l'huître ou des mollusques. Et puis, chez les animaux plus compliqués, ces processus deviennent conscients. Et alors, on parle de douleur et de souffrance. Et il n'y a pas fondamentalement de différence entre la façon dont les animaux, je prendrais les vertébrés pour simplifier, si vous voulez, vivre ces processus de douleur et de souffrance, et nous. L'anxiété, c'est un petit peu autre chose. C'est pas exactement une souffrance en tant que telle. L'anxiété, c'est une crainte, si vous voulez.
Alors, et donc, ça veut dire qu'il y a une projection de quelque chose, si on craint quelque chose,
voilà.
Pas toujours,
alors,
mais oui.
L'exemple que vous avez donné, c'est la souris. C'est beaucoup utilisé sur la souris, parce que la souris n'a pas beaucoup de chance sur un plan évolutif. Elle a été sélectionnée par l'évolution pour servir de proie. C'est-à-dire qu'elle produit beaucoup de petits qui vont servir de proie, si j'ose dire, aux éperviers, aux renards, aux serpents, etc. Et donc, elle a des processus d'anxiété extrêmement forts. Et c'est pour ça qu'on utilise la souris pour mesurer l'anxiété. C'est-à-dire que si on trouve un médicament qui calme l'anxiété des souris, ce médicament, je ne dirais pas à 100%, mais à 99%, calmera l'anxiété des humains aussi.
Donc c'est un miroir aussi pour nous-mêmes.
Oui.
Et c'est aussi une manière aussi de nous montrer que dans notre animalité, il y a effectivement... toute cette part affective, émotionnelle qu'on a laissée un peu de côté et qui est présente. Alors, tous les animaux ne ressentent pas de la même manière, vous l'avez
bien
dit,
sûr,
on ne peut pas comparer
sûr.
Une huître avec un chimpanzé.
Bien sûr,
il y a des degrés. Hein.
Voilà, restons au niveau des mammifères et des oiseaux qui sont très très proches de nous à certains égards.
Mais pour les mammifères et les oiseaux, pour ce qui est, alors quand c'est des proies, elles sont plus anxieuses, mais on peut, ils peuvent nous servir de miroir.
Bien sûr. Et encore, ici encore, les gens qui ont des chats et des chiens me comprendront tout de suite. Combien ces animaux nous ressemblent, sont proches de nous, et sur les plans cognitifs, et aussi sur les plans affectifs. Hein. Alors, je vous donne quelques exemples. On parlait d'altruisme. Alors, j'ai cité des anecdotes tout à l'heure de singes qui faisaient voler des oisillons. Mais il y a eu des expériences en laboratoire. Par exemple, on peut montrer que si un rat ou un singe, ça marche dans les deux cas, peut appuyer sur une pédale pour avoir de la nourriture, mais qui s'aperçoit qu'en même temps, cet appui donne des chocs électriques à son voisin, eh bien, il va réduire son taux d'appui. Il va diminuer parce qu'il perçoit qu'il y a une souffrance du côté de son congénère. Il va réduire son degré. Ça a été fait dans des laboratoires, aussi bien sur des rats que sur des singes. Donc il y a une empathie spontanée, si vous voulez, dans ces deux groupes d'animaux.
Et donc ces animaux-là, ils sont presque plus forts que les humains qui avons, nous, développé beaucoup de choses pour faire souffrir les autres.
Oui, mais alors ça, c'est compliqué. Parce que
c'est compliqué.
L'homme, si vous voulez, est extrêmement plastique. Il peut passer très vite du très... On a une structure un peu juvénile. Nous sommes, à certains égards, nous sommes des enfants. Et donc, cette structure juvénile fait qu'on peut passer très vite du très bien au très mal. D'où l'importance des morales dans notre espèce, si vous voulez. Les autres espèces animales nous ressemblent beaucoup, mais sont plus rigides. Avec quelques exceptions. Et donc, nous, le fait qu'on peut basculer très très vite du très bien au très mal, ça fait qu'on peut faire des choses extraordinaires d'un côté, sur le plan moral, et des abominations de l'autre.
D'où l'intérêt de développer une morale qui prenne en compte notre humanité et donc notre animalité autour de la question comment sauver l'homme par l'animal. Allez, je propose d'inverser la proposition en écoutant La Vache Engagée. Géniale chanson d'Anne Sylvestre, chanteuse engagée et engageante, elle aussi, dont les fabulettes ont bercé nos enfances, composition et interprète entre autres des gens qui doutent, j'adore ça, les gens qui doutent. Anne Sylvestre est morte aujourd'hui. In memoriam et en hommage à son extrême sensibilité, on écoute une chanson militante de circonstance, celle de la vache engagée.
Dis-moi Germaine, sais-tu ça? Y a plus de raison qu'on le cache. L'an prochain paraît-il qu'on va penser aux problèmes des vaches. Les miennes se sont réunies dans un sursaut d'indépendance et m'ont fait part de leurs soucis, m'ont exposé leurs doléances. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. À l'heure de donner leur lait, elles elles endurent un supplice. La machine à traire leur fait aux mamelles des cicatrices. Outre que c'est humiliant par son côté trop mécanique, c'est aussi très traumatisant du point de vue de l'esthétique. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Une autre revendication m'a semblé de juste nature. Elle porte sur la façon de traiter leur progéniture. Elles ont en effet compris par intuition toute bovine qu'on leur fait faire des petits pour une sinistre cuisine. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. Le problème le plus brûlant a trait à leur vie sexuelle. Je mets de taureaux dans leur champ, c'est pas la peine d'être belle. En effet, leur fécondation se fait par un intermédiaire qui n'inspire pas leur patient. J'ai nommé le vétérinaire. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit.
Souhaitant que les... La vache engagée, de la nommée engagée, Anne Sylvestre, vient de nous quitter. Les vaches ont une âme aussi, Georges Chapoutier, vous êtes d'accord avec ça?
Bien sûr, mais alors ça pose un deuxième problème qu'on n'a pas évoqué ici, parce qu'on a évoqué le problème de savoir si les qualités animales pouvaient être trouvées dans l'homme. Mais ça pose une deuxième question, qui est liée à la première, bien sûr, qui est comment traiter les animaux s'ils ont des capacités cognitives et affectives si proches des nôtres, doit-on continuer à les traiter comme on les traitait de façon souvent abusive de notre temps? Et le thème développé par Anne Sylvestre est très intéressant, parce que c'est finalement le thème de l'élevage.
Oui. Alors, et de l'élevage industriel qui fait tant de tort et qui est si violent. Et
à mon avis, le plus gros scandale d'entraînement des animaux aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales, hein, j'aime pas la corrida et des choses comme ça, mais le plus gros scandale, c'est l'élevage industriel. Ça, il n'y a pas de doute. Et donc ça, si on pouvait arriver petit à petit à réformer ça, il y a beaucoup de voix qui se lèvent dans ce sens-là. C'est un point essentiel.
Et ça, pour aller dans votre sens, Georges Chapoutier, évidemment que ça montre notre cruauté à nous humains face aux animaux. Je rappelle que vous venez de publier « Sauver l'homme par l'animal ». Georges Chapoutier, ouvrage où nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Autour de la question « Comment rendre l'homme meilleur ?», nous sommes également en ligne avec le vétérinaire de faune sauvage, Norine Chai, auteur, lui, aux éditions Stock de « Sagesse animale ». Bonjour Norine.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous, car vous aussi, vous avez à cœur de faire passer... Comment dire, l'humanité des animaux, même sauvages, hein, puisque c'est quand même votre spécialité.
Alors oui, déjà merci pour votre invitation. Bonjour Georges.
Bonjour.
Évidemment, en fait, moi j'irais même plus loin en vous écoutant. Je dirais que la question se pose presque pas, ou alors elle est évidente dans le sens où pour moi, l'homme est un animal et l'animal est un homme. Et de fait, il n'y a pas de questions à se dire, est-ce qu'on est cruel ou pas, c'est juste une réaliser que nous avons tous, hommes et animaux, donc tout être vivant sensible, cette fragilité et cette tendance à et cette ouverture à la souffrance que parfois certains provoquent ou industrialise, effectivement, oui.
Mais c'est vrai que Georges Chapoutier faisait une différence en début d'émission entre finalement l'homme plastique, capable du meilleur comme du pire et qui aurait peut-être besoin d'une morale, et enfin, les animaux, les autres animaux non humains, c'est un peu large de dire ça. Mais vous, dans votre ouvrage, Norine Chai, sur les sagesses animales, c'est quand même la dimension spontanée de la sagesse animale qui vous frappe et que vous voulez faire passer.
Tout à fait. Moi, ça fait 30 ans maintenant que je travaille avec des animaux, mais toutes sortes, toutes espèces, pas simplement les chiens et chats, mais les animaux sauvages en parc zoologique et dans la nature. Ce qui m'émeut presque, c'est que les animaux ne cherchent pas la sagesse. Ils la pratiquent et ils la vivent spontanément, comme vous dites. Ce n'est plus un art de vivre, c'est une façon de vivre. Et finalement, la sagesse animale, comme toute sagesse, qu'est-ce que c'est si ce n'est que de vivre en harmonie avec son environnement. L'animal vit en harmonie avec son environnement et c'est en ce sens qu'il a une sagesse. Et l'homme, finalement, parce qu'on a des biais et on a des couches sociales, culturelles, héritage de, évidemment de notre culture, mais aussi de tout notre passé socio-culturel. Donc, on a ces couches qui nous empêchent de vivre en harmonie avec l'environnement parce qu'on est toujours dans l'apparence et non pas dans l'émotion et dans la nature même profonde de notre être qui sommes des êtres sensibles et naturels.
Je suis tout à fait d'accord avec cette formulation. Je pense que l'homme s'est trop artificialisé, mais moi je l'ai mis sur un vêtement de façon cognitive, parce qu'il est devenu trop savant, parce qu'il est trop technologique, mais il s'est trop artificialisé, il s'est séparé de son environnement, et Noreen Shah a raison. En retrouvant une certaine harmonie avec la nature, et une certaine osmose avec les animaux proches de nous, bien sûr, hein. Je parle ici encore essentiellement des mammifères et des oiseaux, je pense que l'homme peut s'améliorer, tout à fait, ça va dans le même sens que ce que je défends.
L'homme peut s'améliorer en gardant sa connaissance, hein. L'homme est quand même le seul qui étudie tous les autres animaux, rappelons-le.
Il ne s'agit pas de transformer l'homme en nouveau chimpanzé, bien entendu, hein. Nous sommes bien
c'est
d'accord
ça.
Là-dessus.
Mais en même temps, il peut s'en inspirer et il peut s'inspirer de la sagesse des animaux, de leur partage des émotions. Noreen Shah, dans votre ouvrage, hein, sur les sagesses des animaux, vous citez un exemple qui fait craquer complètement, c'est celui d'un tapir. Bah oui, incroyable. Il s'appelle Tenga, je crois. Ses récompenses, c'est pas tant que ça la nourriture, hein. C'est autre chose, hein, qu'il aime, le tapir Tenga.
En fait, parce que Tenga, le tapir Tenga est pour moi une personne à qui je suis proche, vraiment très proche. Mais au-delà de Tenga, qui ne cherche pas effectivement la nourriture, il cherche le contact émotionnel que j'ai pu avoir avec lui.
Les caresses, hein.
Les caresses, c'est juste une vision, on va dire
humaine.
Palpable, humaine. Voilà, c'est ça. Évidemment, il y a un contact physique et il y a un process physiologique qui entraîne un bien-être. Mais au-delà de la caresse, il y a vraiment le contact émotionnel que l'animal ressent. Et d'une façon générale, les animaux, qu'ils soient tapirs, chats, chiens ou vaches, ou même perroquets ou quoi que ce soit, ils recherchent d'abord et avant tout un contact émotionnel vibratoire qui leur est proche et qui leur est rassurant. Et c'est avant tout ça qu'ils recherchent, en fait, oui, effectivement.
Et c'est ça que vous voulez réveiller, hein, que ce soit vous, Noreen Shah, dans cet ouvrage, ou Georges Chapoutier, vous vous retrouvez là-dessus, sur le fait qu'au fond, il faudrait qu'on se rappelle de ça, nous-mêmes, que nous-mêmes, pour nous aussi, les caresses, le lien, le partage des émotions, l'affectif, c'est fondamental.
Oui, j'ai dit tout à l'heure que les gens qui avaient des chats ou des chiens me comprendraient tout de suite, mais ça vaut bien sûr aussi pour les gens qui ont des perroquets, voire des tapirs, etc. Toutes ces relations qu'il y a entre des animaux domestiques ou apprivoisés sont extrêmement fortes et restitue ce lien qu'on a un petit peu perdu, tout à fait.
Noreen Shah, vous aussi, hein, c'est ça que vous voulez réveiller chez nous humains, ou rappeler à nous humains, notamment en ville, qui l'avons peut-être un peu oublié, ou qui avons trop développé justement notre intelligence cognitive, une seule forme d'intelligence.
Je suis tout à fait d'accord, effectivement, c'est exactement ça. C'est de rappeler en fait ces liens émotionnels, mais vous savez, tout simplement parce que nous sommes des êtres émotionnels, et que nous avons, comme dit Georges Chapoutier, nous sommes artificialisés dans le sens où nous avons mis en avant les mots, l'abstraction avant l'origine, le signifié. On a mis en avant le signifiant au lieu de prendre en compte l'importance du signifié, et on a pris en compte tout ce qui est artificiel au lieu de se retourner et voir le fondamental qui est à l'intérieur de nous, qui est le naturel. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit que même lorsque Georges Chapoutier dit que on retrouve l'humain grâce aux animaux, c'est ça, c'est en fait on retrouve notre nature humaine, notre nature animale, notre essence même, grâce à l'animal, parce qu'on se retrouve, on retrouve notre animalité, notre naturalité, qui est en fait notre humanité.
Notre humanité, notre empathie, le partage des émotions, l'altruisme qu'on aimerait bien développer un peu plus et qu'on aurait intérêt vraiment à développer un peu plus, d'autant qu'on est tellement puissant par ailleurs que, qu'on a intérêt à développer toutes ces qualités-là. On l'a dit, ce n'est pas l'apanage des humains. La tendresse existe aussi, même chez la plupart des animaux qui nous semblent à des années-lumière de nous, même chez les très gros animaux. On sait les capacités extraordinaires, notamment des grands mammifères marins, bien sûr des dauphins, des baleines. Saviez-vous que les cachalots, oui les cachalots, les énormes cachalots, recherchent aussi la tendresse et peuvent même partager des caresses avec les humains, mais pas n'importe lesquels. Je vous propose d'écouter tout de suite l'éclairage de l'homme qui caresse les cachalots, le chercheur et plongeur François Sarano. C'est un grognement de taches blanches.
C'est pas un grognement, c'est un peu comme le bruit d'une porte qui se ferme. Ça, c'est une approche traditionnelle. Les cachalots viennent vers nous et peut-être nous disent bonjour. C'est une sorte de caresse, hein. Mais voilà.
Un bonjour en cachalot, peut-être.
Un bonjour peut-être, en cachalot.
Probablement.
Allez, j'aimais cette hypothèse merveilleuse. En revanche, ce qui s'est passé avec Elliot, c'est très différent. Nous étions avec mon ami René Euzé en plein océan, hein, 2000 mètres sous les palmes, et vous êtes à 5000 des côtes. Et tout d'un coup, Elliot, cet explorateur, jeune mâle, qui avait à l'époque 7 ans, est venu vers nous et il a commencé à danser pour nous. Donc il s'est mis à pirouetter, à faire toutes sortes d'arabesques extraordinaires. Les cachalots qui pèsent des tonnes sont des tonnes de légèreté. Et donc Elliot s'est mis face à moi et a exprimé 40 fois de suite cette fameuse coda de 8 clics qui, encore une fois, est associée à cette demande de contact physique. Ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est que d'abord ça a duré 10 minutes et qu'un animal qui n'est pas bien, un animal sauvage, je répète, ce sont des animaux sauvages, des géants sauvages, dont l'équivalent terrestre sont l'hippopotame ou l'éléphant. Donc il est venu et il a tenté de m'apprivoiser dans son langage. J'étais à sa merci, nous étions à sa merci. C'était sa décision de rester là. Et il ne serait pas resté là s'il n'était pas bien. Et il n'aurait pas émis ce type de coda, il aurait émis ce fameux grincement, et puis après il s'en serait allé.
Alors que là,
il a émis ce type de coda, destiné uniquement normalement à un congénère, et a insisté avec toutes sortes de contorsions pour, encore une fois, j'interprète ça comme m'apprivoiser. Et donc ce renversement des rôles, celui qui maladroit voulait étudier l'autre, est étudié par Elliot, et celui...
Et Elliot qui vous a demandé quoi ? Un contact physique en fait, une caresse, une approche.
Si j'associe ces codas à ce que je vois chez les autres cachalots, c'était une demande de contact physique. Et là, ce qu'il y a de bouleversant, encore une fois, c'est qu'on se retrouve comme dans un miroir. C'est lui qui tente d'apprivoiser. Nous croyons, nous les hommes, que nous avons le monopole de l'envie d'apprivoiser les dauphins ou les chèvres. Pas du tout. Les animaux, eux aussi, ont envie d'apprivoiser la différence, l'autre.
L'énorme cachalot Elliot voulait apprivoiser le petit humain François Sarano.
Voilà.
Qui veut réagir, Georges Chapoutier, à cet éclairage
deux choses, deux réactions. La première, effectivement, que vous avez dite déjà, c'est que les cétacés, les groupes de cétacés sont parmi les mammifères les plus intelligents. Donc ça conforte cette idée-là, bien sûr. Les dauphins, bien sûr, mais aussi les orques, les baleines, etc. Et puis la deuxième fois, c'est sur l'apprivoisement qui est très intéressante aussi. Parce qu'il dit que c'est le cétacé qui m'a apprivoisé. En ce qui concerne les phénomènes d'apprivoisement, beaucoup plus classiques, le chien par exemple, il y a toute une série de controverses actuellement qui se demandent si c'est nous qui avons apprivoisé les chiens ou le contraire.
Par exemple, c'est pas le chien, enfin alors, le loup qui serait devenu chien pour nous apprivoiser.
Alors, si vous voulez, par exemple, il y a des cas hein, aujourd'hui qu'on peut observer entre des troupes de singes et des troupes de loups. Et on montre que les loups, pour accroître leur réserve de nourriture, leur capacité à chasser, en quelque sorte... ont un comportement d'adoption et de gentillesse vis-à-vis des troupes de singes, des géladas. Et donc, dans ce cas particulier, c'est plus ou moins le loup qui déclenche ça.
Le loup qui apprivoise les singes.
Bien sûr qu'ensuite, l'homme en a profité avec sa technologie, etc., son intelligence. Mais au point de départ, qu'est-ce qui a déclenché la relation spécifique entre les loups et les hommes ? Ça se discute.
Norincha, est-ce que vous voulez réagir ? Parce que vous aussi, vous travaillez avec des animaux sauvages, vous avez travaillé dans la nature, en liberté avec eux, mais également en captivité, donc vous vous êtes sûrement attaché. Vous avez aussi eu des aventures comme ça, avec des animaux comme François Sarano et ce cachalot Elliot qui l'apprivoise. Hein. C'est le cachalot qui apprivoise le plongeur. Hein.
Oui, c'est très intéressant. Et alors, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Déjà, il faut savoir que les animaux, c'est dans les sociétés animales, l'apprivoisement, l'utilisation d'autres sociétés animales différentes de sa propre espèce est assez commune. Hein. Vous savez, par exemple, les fourmis qui élèvent des termites ou alors des fourmis qui mettent en esclavage d'autres espèces animales, c'est fréquent. Donc l'apprivoisement, c'est juste un contexte finalement de contingence qui se dit tiens, une espèce peut profiter, prendre l'opportunité d'une relation nouvelle avec une autre espèce. Mm-hmm. Et après, nous, évidemment, humains, on va traduire ça comme un croisement, etc., etc. Et ce qui est intéressant, ce que disait Georges Chapoutier, effectivement, ça, on peut se poser la question si, quel est le début, qui a improvisé l'autre. Et parfois, je dirais les deux, mon capitaine, puisque en fait, puisque parfois l'homme va utiliser, entre guillemets, utiliser le chien ou le loup à l'époque pour garder ses troupeaux, et d'un autre côté, le loup va utiliser la présence humaine pour reprendre les restes, par exemple, de proies qu'il n'aura pas pu chasser.
Et c'est là aussi, Georges Chapoutier, que quand vous dites sauver l'homme par l'animal, c'est aussi dans cette interdépendance-là et dans cette quoi, dans le fait de reconnaître qu'on est lié, qu'on est en rapport, et que ce qui est le plus important, c'est de partager nos émotions. Qu'à ce moment-là, on a accès à l'autre, quel qu'il soit, animal, humain ou non humain. Il y a quand même ça dans cette morale.
Sauver l'homme pour l'animal, ça veut dire qu'en adoptant les émotions animales que nous avons en nous, nous pourrions être meilleurs. Mais c'est évidemment intimement lié au fait qu'il faut aussi avoir des rapports humains, donc émotionnels, avec les autres animaux, bien entendu. Les deux questions sont liées, évidemment.
Et ces rapports, ils sont évidemment... les rapports qu'on a avec les autres, ils ne sont pas tellement au niveau de l'intelligence ou de notre intellect. Notre intellect nous permet d'avancer, voilà. Nous permet de comprendre, de faire des choses extraordinaires hein, sur lesquelles qui sont fondamentales. Mais le rapport aux autres, c'est du côté de l'affect, du côté de l'émotion, donc
bien
du
sûr,
côté de cette
sûr.
Animalité,
bien
c'est
sûr.
Ça. Hein.
Déjà avec les animaux, le rapport, il est essentiellement affectif, les rapports qu'on a avec les animaux. C'est principalement affectif. Mais bien entendu, avec nos congénères, ils sont très affectifs et ils ne le sont peut-être pas encore assez.
Norine Chai, vous aussi, vous aimeriez mieux qu'on soit un peu plus affectif, un peu plus émotionnel entre nous, un peu plus altruiste, quoi, finalement.
Oui, je pense. Mais d'un autre côté, je crois qu'on est tous, finalement, altruistes et émotionnels. C'est juste que notre société, notre condition de vie nous empêche parce que nous sommes... formaté pour d'autres raisons. Vous savez que Darwin, c'est pas moi qui dis, c'est Darwin, dans ses ouvrages, dit que dans la nature, la relation principale qui existe, ce n'est pas la dominance, la hiérarchie, c'est l'altruisme. L'altruisme est le fondement de tout écosystème. Donc c'est presque même une croyance fausse que le grand public, la plupart des gens croient, que le monde est gouverné par des hiérarchies, par des dominants, des dominés. Mais en fait, dans la nature, vrai, c'est l'altruisme qui est le ciment de tout écosystème. Sinon, ça n'existerait pas, l'écosystème. La vie n'existerait pas, c'est que de l'interaction, en fait.
La loi du plus fort n'est pas la plus importante.
Merci à Norine Schein d'avoir réhabilité Darwin, parce qu'il est maltraité. On retient de lui l'idée de la lutte pour la vie, qui est un des éléments, bien sûr, entre des carnivores et des herbivores, il y a ça. Mais effectivement, le deuxième aspect, qui est l'aspect altruiste, qui est essentiel et qui vient contrebalancer cet effet-là, on l'oublie. Or, Darwin avait beaucoup insisté là-dessus.
L'altruisme comme moteur de l'évolution, il faut bien s'en rappeler autour de la question comment rendre l'homme meilleur, comment sauver l'homme par l'animal, comment nous inspirer de la sagesse des animaux, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Norine Chai. Merci, hein, Norine, d'avoir été en ligne avec nous sur RFI. Petite dédicace.
Avec plaisir.
Petite dédicace musicale juste pour vous, pour nos auditeurs aussi, hein, mais qui vous est spécialement destinée. Elle est signée Dora Lou. Nous sommes tous des animaux.
Nous sommes des animaux,
Voilà qui est dit et bien dit. Pardora Lou sur RFI, nous sommes des animaux qui avons besoin de tendresse et d'amour. On est bien d'accord, hein, Georges?
Nous sommes parfaitement d'accord.
Nous sommes bien sûr RFI autour de la question comment rendre l'homme meilleur, comment sauver l'homme par l'animal, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Georges Chapoutier. Je rappelle que vous êtes neurobiologiste et philosophe. Et tout de suite, une nouvelle question pour vous, soulevée par une autre philosophe qui travaille elle aussi à faire bouger les lignes entre les hommes et l'environnement, entre les hommes, les animaux, les végétaux, le sauvage et le domestiqué. On l'écoute.
Enfin, on peut se demander dans quelle mesure changer notre regard sur les animaux, c'est-à-dire cesser de les considérer soit comme des créatures dangereuses, soit comme des témoins d'une nature vierge, est-ce que ça ne serait pas changer le regard sur nous-mêmes, et donc d'une certaine façon déboucher sur une nouvelle anthropologie, sur une nouvelle conception de l'homme, ou ce que Grotthusen appelait une nouvelle image de l'homme.
Qui serait quoi pour vous, Joël Zask, cette nouvelle image de l'homme?
Ben, ça serait une image non dualiste, ça serait une image dans laquelle l'âme et le corps seraient les deux aspects d'une même réalité. Donc ça irait assez loin, en fait, qu'il s'agisse de politique, de morale, de droit, d'alimentation. Il n'y aurait plus le sauvage et le civilisé, il y aurait peut-être l'ordre et le désordre, en tout cas peut-être pas l'ordre et le désordre, mais en tout cas il y aurait, disons, ce qui est conscient, ce qui ne l'est pas. Enfin voilà, des choses comme ça.
Ça va effectivement très loin, Georges Chapoutier, de considérer les autres animaux non humains comme conscients, ou plutôt, il y a un nouveau mot qui a surgi, qui a même apparu dans le Larousse, dans le dictionnaire, c'est le mot sentient.
C'est un mot qui est dérivé des anglo-saxons, mais qui est très utile, sentient. Si vous voulez, chez tous les... Bon, pas chez tous, mais chez la plupart des animaux, il y a des mécanismes de sensibilité à ce qui est nocif. Ça s'appelle la nociception. Même chez le ver de terre, même chez l'huître, la moule, etc. Et puis, il y a un moment où, chez les animaux les plus complexes, sur le plan cérébral, où ça devient conscient. Et lorsqu'on a nociception plus conscience, là, on peut parler de sentience.
Et donc, finalement, on est conscient de ce qu'on ressent,
voilà,
on le ressent,
conscient de sa douleur, on
est conscient de sa douleur, donc on va la redouter, voilà, on va pouvoir l'éviter. Ça implique la mémoire,
voilà.
Ça implique
tout ce genre. Donc c'est ça la sentience. Effectivement, l'écrasante majorité des philosophes qui s'intéressent à l'animalité sur un plan du respect de la douleur et de la souffrance s'intéressent au fond aux animaux sentients. C'est eux. Presque toujours, c'est à eux qu'on réfère, si vous voulez.
Mais ça change tout, rien que d'employer. Moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps ce mot de sentient ou de sentient. Ça va au-delà de la sensibilité. Ça se rapproche de la conscience. Alors, il y a plein d'animaux.
C'est de la conscience.
Mais ça ne concerne pas que les animaux qui ont ce que les éthologues appellent passer le test du miroir.
Ah, non,
des
non,
animaux
non,
qui
non,
se
non.
reconnaissent dans le miroir. Là, c'est encore au-delà. Alors, mais même la majorité des animaux sont donc conscients.
Les animaux qui ont un système nerveux complexe, disons, pour simplifier.
Pour simplifier,
les vertébrés et les mollusques céphalopodes comme le poulpe. Ça se discute actuellement pour l'abeille, pour certains crustacés, etc. Mais c'est certainement le cas pour les vertébrés, tous les vertébrés, y compris les poissons, et les mollusques céphalopodes comme la pieuvre, comme le poulpe.
Et effectivement, là, ça change tout, parce que nous, en tant qu'être humain, avec une forme d'intelligence extrêmement développée, on est quand même des animaux très singuliers, des animaux
bien sûr,
à part,
bien sûr.
Ça nous donne une responsabilité.
Bien
si
sûr.
L'on a compris avec notre intelligence à quel point les autres
bien sûr.
Animaux non humains étaient eux-mêmes sensibles,
bien
au
sûr.
Sens plus profond du terme, ça change tout.
Ça devrait changer tout.
Et ça devrait donc, puisqu'on en revient à votre ouvrage, qui est au fond un ouvrage de morale,
c'est un ouvrage de morale, tout à fait.
Ça devrait nous inviter à développer une autre forme de morale ou à l'appliquer vraiment.
Tout à fait. Mais alors ça suppose un changement de processus d'éducation, etc. Il faut réformer nos sociétés. On a des sociétés qui sont très centrées vers la cognition, le succès technologique, etc. etc. Donc il faudrait réformer nos bases éducatives et faire quelque chose d'autre, bien sûr. Oui.
Mais quelle piste, justement, comment faire aujourd'hui alors pour convaincre nos décideurs?
Il y a déjà une chose très simple,
oui.
Qui ne résoudra pas tous les problèmes. Mais moi, je déplore beaucoup. Donc, quand j'étais enfant, il y avait des cours d'éducation civique et morale. C'est la moindre des choses. Alors, je ne dis pas que ça résoudrait tous les problèmes. On pourrait leur ajouter des notions d'écologie, de respect de l'animal, etc. etc. Mais Je ne dis pas que ça résoudrait tout, mais si déjà dans la petite enfance, on commençait à être familiarisé à ces notions, ça serait une bonne chose. On peut réformer beaucoup de choses.
On peut réformer beaucoup de choses. On peut aussi tenir tous les bouts de la chaîne, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être angélique ou diabolique, c'est-à-dire on ne va pas retourner à l'état de nature, c'est pas ça le propos.
C'est pas ce qui est demandé.
Oui. C'est pas ce qui est demandé. On ne va pas non plus arrêter de faire fonctionner notre intelligence, notre cerveau, la plasticité de notre cerveau, toutes nos capacités cognitives. Il faudrait quoi ? Ajouter les autres ? Donc regarder les animaux pour regarder, sentir,
nous ouvrir. Il faudrait avoir une éducation mieux balancée, et surtout déjà dans la petite enfance, tout ce jour, avant 2 ans, il faut bien voir ça, hein, dans la petite enfance, avant 2 ou 3 ans, déjà si on formait les enfants beaucoup plus au respect de la vie, au respect de la souffrance.
Respect de la vie, oui.
Voilà. Je crois que l'éducation est essentielle. Hein. On a les adultes, des enfants que l'on a formés.
Mais en même temps, vous êtes bien formé tout seul, Georges Chapoutier.
Oui, ça c'est les hasards de la vie.
Alors, ça impose évidemment une responsabilité, hein, que de se rencontre de ça. Vous l'avez dit, un changement de paradigme. Vous militez d'ailleurs, hein, Georges Chapoutier, pour reconnaître les droits de l'animal avec d'autres, comme notamment le moine bouddhiste Mathieu Ricard, à qui on ne va pas laisser la conclusion, mais je vous propose d'écouter parce qu'il a une question à vous soumettre. On l'écoute.
Ben, cher Georges Chapoutier, très heureux de vous poser cette question. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes une espèce par 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Et que suggérez-vous pour que nous considérions toutes ces espèces comme des êtres à part entière et pas seulement comme des instruments pour promouvoir, soi-disant, les intérêts de l'espèce humaine ?
Merci à Mathieu Ricard, qui est toujours à l'avant-garde de ces questions, bien sûr, et que j'admire beaucoup. La réponse, elle a été évoquée par vous, Caroline. La réponse, nous sommes des sociétés de droit. La réponse, elle est dans les droits. Si on veut que... Commençons par prendre, par exemple, un chien. Si on veut que le chien soit respecté, y compris par les gens qui n'aiment pas les chiens, ben, il faut donner des droits qui seront garantis par la loi, qui fait qu'on ne peut pas faire certaines choses avec les chiens. C'est déjà un peu le cas. Et donc, pour répondre à la question de Mathieu Ricard, il faut à ce moment-là donner, vis-à-vis des différentes espèces, des droits qui seront particuliers, bien entendu. Hein. Les droits du ver de terre ne seront pas les droits du chimpanzé, on est bien d'accord. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais donner des droits, ça veut dire donner des contraintes à l'humanité pour ce que même ceux des humains qui n'aiment pas les animaux ne fassent pas avec eux n'importe quoi. Alors, bien sûr, je pense que Mathieu Ricard présente ça dans un cadre beaucoup plus religieux, puisque lui est un religieux.
Lui est bouddhiste, voilà. Donc il a cette philosophie-là.
Nous sommes des sociétés de droit, des sociétés occidentales. Donc tout ce que nous allons faire doit s'exprimer en termes de droit. Donc il faut défendre des droits pour les animaux et définir pour chaque groupe quel type de droit on veut leur donner.
Je trouve ça très intéressant, Georges Chapoutier, parce que vous tenez un peu tous les bouts de la chaîne. Parce qu'en même temps, vous finalement, c'est une morale, hein, que vous nous invitez à trouver. Vous parlez de droits, qui sont des notions très froides. Et en nous invitant à réveiller la partie animale en nous, j'ai envie de dire plus chaude, les émotions, les affects. C'est étonnant parce qu'on a l'impression que la philosophie, il fallait surtout rester très froid, la tête très froide pour être philosophe. Or vous nous dites, ben non, aujourd'hui, là où on en est maintenant, il nous faut une morale parce qu'on est des êtres humains, mais il faut réveiller nos instincts animaux. C'est étonnant quand
même. Il faut les deux, si vous voulez. Ouais. La morale, elle est générale, si vous voulez, elle fait appel à ce que nous avons de plus profond en nous. Mais la question qui était posée par Mathieu Ricard, c'est qu'est-ce que doit faire pratiquement ? Alors, une fois qu'on a formé les sujets, bien sûr, c'est très bien, bravo. Mais peut-être qu'on n'aura pas toujours tous des sujets qui seront uniquement consacrés à l'animal. Il y a des gens qui n'aiment pas les animaux du tout. Donc ceux-là, il faut bien les cadrer par des droits qui font qu'on ne peut faire n'importe quoi avec les animaux.
En même temps, beaucoup aujourd'hui se posent des questions sur la question des droits aux animaux. Qui dit droit, dit devoir, dit responsabilité.
Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je rappelle par exemple qu'un jeune enfant, un nouveau-né, il a des droits, heureusement d'ailleurs, il n'a pas de devoir. Non, la notion n'est pas strictement liée.
Donc, on pourrait considérer les animaux comme, effectivement, nous leur accordons des droits. C'est aussi, malgré tout, une certaine forme de supériorité de l'humain que vous revendiquez.
Tout à fait. Ça serait une vraie supériorité de l'homme, de dire nous accordons des droits aux autres espèces, nous ne faisons pas n'importe quoi avec eux, nous sommes capables de le respecter, leurs souffrances, leurs émotions, etc., etc. Là, ça serait une vraie supériorité sur un plan moral de l'espèce humaine, si on arrivait à faire ça.
Alors, pourquoi justement on n'y arrive pas, Georges Chapoutier ? En vous lisant, on se dit, mais c'est pas possible. Parce qu'on se pose tous la question. On vit dans des sociétés peut-être moins violentes qu'autrefois, mais tout de même très violentes, très injustes. Ça ne s'arrange pas. Et on se dit, c'est pas possible.
Ça s'arrange un peu quand même. Un peu, voilà. Prenons le cas de l'animalité. Il y a un certain nombre de choses maintenant qu'on ne pourrait plus faire et qui choqueraient, si vous voulez. des gens, ça existe encore malheureusement, des gens qui torturent des chats, etc. C'est désapprouvé de façon unanime, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a un certain progrès. Il est encore très très loin de ce qu'on peut imaginer, bien sûr. Et alors ne parlons pas des rapports entre les humains, les guerres,
ça,
etc.
C'est ça, parce qu'il y a aussi des amis des animaux qui sont très violents avec les autres humains. Donc l'un n'empêche pas l'autre non plus. C'est là encore où il faut des garde-fous, une morale,
voilà,
des droits.
Exactement.
C'est ça,
hein. Il faut une formation des jeunes, absolument, tout à fait.
Vous êtes optimiste ou pessimiste? Ça a un sens.
Ça, c'est très difficile. C'est très difficile à savoir. Je suis modérément optimiste pour le futur proche. Je pense que les sociétés occidentales vont dans un certain sens relativement favorable, si je vois ce qui s'est passé entre 50 ans, par exemple pour le respect de l'animal. Sur le très long terme, que deviendra l'espèce humaine? Ça, je crois que je ne suis pas capable de faire des prophéties comme ça.
Et l'altruisme, c'est une qualité qu'on développe comment?
Je pense que c'est la petite enfance, en incitant...
Oui, mais maintenant, nous sommes plus des petits-enfants. Donc là, c'est pour nos enfants, mais nous...
On peut se former soi-même en réfléchissant, si vous voulez, mais nous on ne changera plus beaucoup. Hein. Tel qu'on est, si vous voulez, à notre niveau d'âge, je pense qu'on ne changera plus beaucoup. Hein. Il y a quelquefois des gens qui se réveillent, qui deviennent... Je ne crois pas que quelqu'un qui soit tourné vraiment vers le mal devienne un saint du jour au lendemain. Ça, j'y crois plus.
Donc c'est à nous, à chacun d'entre nous...
Surtout à former nos jeunes. Je crois que c'est les jeunes générations qui font le futur.
Merci Georges Chapoutier d'être venu en direct dans notre studio pour nous le rappeler.
Merci de m'avoir accueilli.
Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, décapant hein, aussi, « Sauver l'homme par l'animal » paru aux éditions Odile Jacob. Je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, que nous avons un exemplaire et un seul à vous faire gagner. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, bravo au gagnant ou à la gagnante. Je vous signale aussi, chers amis auditeurs, la tenue ce week-end d'un congrès scientifique virtuel auquel vous participez, hein, Georges Chapoutier, auquel participera aussi Norine Chai, que l'on a entendu. C'est un colloque scientifique intitulé Pet Revolution. C'est ce samedi 5 et dimanche 6 décembre, organisé par l'Animal University et l'Université Paris-Nanterre. Votre table ronde portera Georges Chapoutier sur les troubles psychiques chez l'humain et chez l'animal, il y a les deux. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de ça, mais on trouve chez les animaux les plus intellectualisés, disons les plus cérébralisés, mammifères et oiseaux, des troubles psychiques qui ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve chez l'homme. On a parlé de l'anxiété, mais il y en a d'autres.
Encore une fois, l'animal miroir de l'homme, l'homme miroir de l'animal, qui sait ? Joli mix animal et humain, musicien signé Chassol. Et ça s'appelle Pipornithologie. Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête sur ces notes de pipo et d'ornithologie. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, en direct avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique pour notre table ronde mensuelle autour de la question comment la science infusée se diffuse. Il y aura comme chaque mois des magazines à gagner, vous le savez, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre curiosité, de votre fidélité et de votre interactivité. Vous pouvez bien sûr nous podcaster et partager nos émissions à volonté. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.